RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Zora Bitan, cadre de la fonction publique, Sandrine Pégan, avocate, et Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Il est temps d'accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle en 2027, le président des Républicains. Bonjour Monsieur Retailleau.
Bonjour à vous.
Monsieur Retailleau, soyez rassuré, ici on peut utiliser des expressions chrétiennes. Par exemple, on peut dire que la présidentielle est un chemin de croix. Ça vous choque qu'un animateur du service public ait repris une candidate dans un jeu parce qu'elle allait justement utiliser cette expression, un chemin de croix?
Oh, rien ne me choque plus, simplement, il faut avoir une liberté d'expression et il y en a marre de ces tabous dans tous les sens. C'est une forme de bien-pensance, finalement. Vous savez, les Français en ont marre. Hein. Parce que quand on est Français, on veut s'exprimer comme on l'entend. Certains ont une foi, faut les respecter, d'autres l'ont pas. Et puis, on est imprégné de tout notre langage. Par exemple, quand vous parlez, par exemple, de l'Hôtel Dieu. C'est vrai, comment vous allez appeler l'Hôtel Dieu? On a des milliers de communes qui commencent par Saint-Laurent, Saint-Martin, Saint-Hilaire. Très bien, mais c'est notre culture, c'est notre histoire. Pourquoi est-ce qu'on va la renier? On va pas cracher dessus quand même.
Mais là, ça se passe à la télévision, en direct. Oui. C'est ça qui est étonnant.
Non, justement, pas en direct.
Pas en direct, oui, mais je veux dire sur le service public.
Oui, ça a été maintenu au montage.
Qu'est-ce que vous pensez du rapport de la commission d'enquête sur le service public? Qu'est-ce qu'il faut faire du rapport sur Charles Lalonde?
Il y a des choses. D'abord, heureusement qu'il était publié. Nos deux députés qui siégeaient dans la commission d'enquête ont voté pour la publication. Je les avais eus avant pour m'en assurer, parce que quand on fait une commission d'enquête, on peut être pour, on peut être contre. Mais je pense que la masse d'informations, on doit la mettre sur la table. Ensuite, chacun se positionne. Je suis en train de préparer, moi, le projet présidentiel pour notamment l'audiovisuel. Parce que dans l'audiovisuel, il y a plus que quand même le service public. Bon, si on s'en tient au service public, ça coûte trop cher. C'est plus possible, 4 milliards, c'est plus possible.
Donc il faut faire des économies.
On devra faire des économies. C'est impossible autrement.
Comment on fait des économies? En privatisant?
Comment on fait des économies? En fusionnant. Je suis pas pour une holding. Je pense qu'il faut fusionner pour qu'on puisse obtenir des gains, des économies d'échelle pour couvrir le territoire. Ça, c'est un premier point. Deux, il faut que je suis pas pour la privatisation. Parce que je veux qu'il y ait un pôle de création qui encourage notamment un certain nombre les documentaires, la création audiovisuelle, etc. Et moi, je veux quand même qu'il y ait ce pôle public dans notre audiovisuel. Simplement, je veux que ça soit quand même impartial.
Ah oui. Il y a un problème de neutralité dans le service public.
Bien sûr, évidemment. Donc il faut trouver le bon système.
C'est compliqué quand c'est un homme politique qui le dit ça, parce qu'on se dit finalement c'est un politique qui aimerait que le service public parle comme lui. Donc
je vais vous donner un exemple. Voilà. Je vais vous donner un exemple très concret. Ça date d'hier, quand la Société des journalistes remet en cause l'arrivée d'Eugénie Bastier sur l'heure de vérité, parce que grosso modo elle serait conservatrice ou je ne sais quoi. Et alors? La pluralité, ça doit exister partout. C'est de l'argent qui est payé par les Français. Donc moi, j'attends pas que ce soit que de droite. J'attends pas non plus que ce soit que de gauche, vous voyez. Il y a un juste équilibre. Donc il faudra faire des économies. Deux, l'impartialité. Et trois, il faut qu'il y ait des missions qui correspondent au service public que le privé ne fait pas. Je pense au divertissement, je pense à tous les territoires. Voilà, je pense qu'il y a une couverture territoriale qui est importante de l'information dans les territoires. Je pense à la jeunesse. Voilà, on doit pouvoir trouver dans le service public des choses qu'on ne trouve pas.
C'est-à-dire
que
vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a trop de jeux ou trop de divertissements sur les services publics.
Ça ressemble trop à TF1.
Mais donc alors, dans ce que vous dites, Monsieur Retailleau, vous vous rapprochez du député à l'oncle, puisque lui aussi, il veut développer les documentaires et il trouve que sur France 2,
je m'en
fiche. Il y a beaucoup trop de jeux.
Je me rapproche de mes convictions.
Oui,
ce que je dis aujourd'hui. Soyons clairs, ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit bien avant. Donc voilà. Non, mais il y a des choses qui sont positives, d'autres qui ne le sont pas, ce qui est totalement normal. Quand vous mettez sur la table 70 propositions, ça serait quand même bien rare que vous approuviez les 70 propositions. Bon, il a sûrement eu aussi un parti pris, mais c'est normal. Je suis parlementaire depuis des années. Les commissions d'enquête, je les connais bien. Si témoigne une commission d'enquête finalement les convictions du rapporteur ou du président
vous disiez,
ne transparaissent
ça,
pas.
Ça va faire partie du projet présidentiel. Il sera dévoilé quand, le projet présidentiel de Bruno Retailleau, alors?
Ah, j'avance avant l'été. J'avance, hein, vous savez, j'ai présenté...
Combien de propositions ?
Sur l'ensemble, oui. Je peux pas calculer comme cela, mais aujourd'hui, on a 50 groupes de travail qui mélangent des élus, des professionnels, sur des thématiques. J'ai sorti d'ailleurs sur le travail, sur produire plus, produire en France plutôt qu'ailleurs. J'ai sorti la semaine dernière sur la famille. Demain, je sors tout près d'une centrale nucléaire mes propositions sur l'électricité, la décarbonation, etc., etc. Donc quasiment toutes les semaines, tous les 15 jours, je sors des propositions.
Donc vous êtes prêt, un peu comme Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit dimanche soir, il dit moi je suis candidat, il y a une équipe, un programme, un candidat. Chez vous c'est la même chose, alors qu'ailleurs c'est carré.
C'est assez carré, mais contrairement à Jean-Luc Mélenchon, que j'ai fait voter nos adhérents, vous voyez. J'ai fait voter, j'ai eu 74%, et ils avaient le choix entre une primaire interne, une primaire un peu plus ouverte, ou me désigner comme le candidat naturel.
Oui, mais pardon, bah, j'entends pourtant des Xavier Bertrand dire, moi je suis candidat, Laurent Wauquiez qui a du mal à cacher ses ambitions, ou d'autres à droite, qu'est-ce que c'est vraiment carré?
Eh ben, maintenant c'est carré. Parce qu'il y a la démocratie. C'est le propre quand on est attaché à la démocratie.
Il n'y a qu'un seul candidat LR, c'est vous.
Bien sûr, ça y est. Moi, je suis légitimé. D'ailleurs, vous verrez que depuis qu'il y a eu cette élection, c'est un peu meso voce quand même. Voilà. Et en plus, tout le monde pouvait se présenter. Mais très franchement, ce que je veux dire à vos auditeurs, aux téléspectateurs, c'est que 2027, ça ne sera pas n'importe quelle élection. Moi, je considère que c'est l'élection de la dernière chance.
La dernière chance de quoi ?
La dernière chance, parce qu'on est au bord du précipice. On arrive à un moment.
Dramatisation totale.
Non, je vais vous expliquer.
Ah, faut jouer un peu sur la victimisation.
On arrive. Dramatisation quand même sur Retailleau. À chaque fois, on leur fait le coup. C'est moi ou le chaos, c'est moi ou le fascisme. Donc,
c'est pas ce que je veux vous dire. Simplement, le monde, il est dangereux. Jamais il était aussi dangereux. Depuis 5 siècles, c'est l'Occident qui dirigeait l'histoire du monde. C'est plus le cas. Depuis des années, c'était les Américains qui étaient notre garantie en termes militaires, en termes de commerce, etc. C'est plus le cas. Au contraire, ça devient un rival. Et c'est à ce moment où le monde est le plus menaçant que nous, on est très faible. On a 3 500 milliards d'euros de dette. On pourrait payer demain, en 2030, 120 milliards seulement pour rembourser les intérêts de la dette. Est-ce que vous savez ce que rapporte l'impôt sur le revenu ? Un peu plus de 90 milliards. Ça voudrait dire qu'il est possible que dans 3-4 ans, on paye plus pour les intérêts de la dette que ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Mais je me souviens de Jacqueline Moreau au moment des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils font du pognon ? Mais le pognon, on va le mettre dans des trucs qui sont improductifs. La dette, elle est détenue par des mains étrangères en majorité. Donc on va engraisser, les Français vont engraisser. Voilà, ces gens
qui... Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut renationaliser la dette ?
Non, je dis pas ça parce que je pense que c'est pas la question. Ce que je dis, c'est que il faudra que l'État se serre la ceinture, faire des économies.
D'accord.
Parce qu'il y a plein d'économies à faire.
Oui, économie sociale.
Tout le monde le dit
le dire pour être élu. Hein,
mais quelle économie concrète, par exemple, si vous êtes élu président de la République, la première économie que vous faites ?
Moi, les économies, je les ferai d'abord pour décourager l'assistanat. Les gens que je vois, vous savez, j'ai commencé depuis des mois et des mois un tour de France et j'aime beaucoup le contact avec les gens. Moi, vous savez, je suis un rural, je vis dans une commune de 1600 habitants, j'ai pas de vie mondaine. Mes amis, moi, ce sont des gens, mes voisins qui sont agriculteurs, etc., sont des gens ordinaires. Mais quand je vois des gens, ce qu'ils me disent, écoute Bruno, on bosse très très dur, on gagne pas bien notre vie, on n'arrive plus à boucler les fins de mois, et on a un voisin, on a quelqu'un qu'on connaît, lui, il vit au crochet de la société, il a pas besoin de se payer des pleins d'essence actuellement, il a pas besoin de faire, garder ses enfants, et il gagne quasiment autant que nous. Donc ce que je ferais, c'est que je plafonnerai à 70% du SMIC la totalité des prestations sociales. Les prestations sociales, il y en a une quinzaine qui viennent de l'État. Il y en a d'autres qui viennent... Non, je fusionne pas. Je vais vous dire pourquoi. Il y en a d'autres qui viennent, par exemple, de la caisse d'allocation familiale, le RSA, par exemple. Et d'autres qui viennent des collectivités. Je fais un compte social unique. Chaque foyer... Il y a un foyer fiscal. Vous avez un compte fiscal. Eh bien, il y aura aussi un compte social unique. J'y mets au mois par mois l'ensemble des prestations. Et les prestations, je les écrète. Je les plafonne à 70% du SMIC pour m'assurer qu'il y ait vraiment un écart entre le revenu du travail et de la solidarité. Et ça, ce sont des milliards. Je fais la réforme de l'assurance chômage. Parce que certains, on appelle ça la permittence. C'est-à-dire que on part un peu au chômage, c'est payé par la société.
Est-ce que vous réduisez le nombre de fonctionnaires ?
Je réduirai
de
aussi...
Combien ?
Je réduirai d'environ 250 000 le nombre de fonctionnaires. D'accord. Parce qu'on est à 6 millions de fonctionnaires.
Mais c'est-à-dire vous.
Et que, pardon,
vous,
on est à 6 millions de fonctionnaires.
Vous ne renouvelez pas les départs à la retraite, c'est ça, en
c'est
fait?
C'est ça. On a une chance, c'est que la pyramide des âges. D'accord. Par exemple, en décembre dernier, il y a à peu près 145 000 fonctionnaires qui sont partis à la retraite. Moi, je pense que, et je veux d'abord toucher ce qu'on appelle l'administration administrante. Il y a besoin de policiers. Il y a besoin d'infirmières, de gendarmes. Mais il y a trop de gens qui contrôlent, voilà. Et si on veut moins de normes, ben aussi il faut moins de contrôleurs, voyez. Il y a une évidence.
On s'est interrogé ce matin sur le rôle de la Banque de France. Peut-être que ça fait partie de ceux qu'il faudrait plus dégraisser que les autres.
Ça, c'est pas la Banque de France. Il y a une Banque centrale européenne.
La Banque de France, c'est un exemple, mais je peux vous citer une liste d'offices. À un moment donné, il y a aussi des choses qui se passent dans l'administration. Alors certes, les contrôleurs et tout ça, mais il y a quand même des pans entiers de l'administration. On voit pas à quoi ils servent, quoi.
Il y a 2000 opérateurs, il y a 2000 agences. Le Sénat a fait une commission d'enquête. Mmh. Et dans quelques semaines, on va voter un texte, justement, pour supprimer des agences. Ça, c'est 80 milliards d'euros. Eh bien, il y a quelques milliards à retirer aussi de ces suppressions d'agences. Ça a démembré l'État. Du coup, c'est l'État dans l'État. Ça a démembré l'État. Et moi, je veux un État fort.
Oui, mais
je veux pas un État qui soit dispersé.
Il y a déjà eu une diminution des fonctionnaires et pourtant, ça n'a pas fonctionné.
Il y a eu 144 000. Il y a eu 144 000 sous Nicolas Sarkozy et François Fillon. Aujourd'hui, vous avez 6 millions. On a à peu près 1 million de plus de fonctionnaires qu'il y a 20 ans.
Notamment dans les
collectivités. Est-ce que les services publics se sont améliorés? Non. On a choisi une fonction publique nombreuse et paupérisée. Moi, ce que je veux, par exemple, dans mon projet, je pense que l'école, c'est capital. L'école, c'est capital parce que on prépare la France de demain. Et aujourd'hui, on n'est pas bon sur les performances. Les classements PISA en français, on est 26e rang. En maths et en français, on est à 29e rang. Mais le pire, on devrait interdire l'expression école républicaine. Le pire aujourd'hui, c'est que l'école française n'est plus républicaine. Pourquoi ? Parce que c'est en France que le lien entre la réussite des enfants, des élèves et la position sociale, le revenu des parents, ce lien, il est le plus fort. En clair, quand vous avez des parents qui ont un certain niveau de vie, un niveau socio-culturel, vous allez réussir. Et ça, moi, ce que je veux faire, c'est refaire
donc
des
donc, c'est la reproduction
maîtres.
Sociale. Et l'ascenseur
Exactement.
Sociale n'existe plus.
Ça n'existe plus. C'est devenu, malheureusement, l'école française est devenue une machine à reproduire les inégalités. Et je veux, moi, je pense qu'on n'en parle pas assez. Je veux qu'on reforme de bons maîtres. Parce que être professeur des écoles aujourd'hui, c'est 1000 fois plus difficile que les maîtres que nous, on a connus. Parce que les gamins sont plus difficiles. Parce que les familles, parfois, ont démissionné.
Parfois.
Parce qu'il y a les écrans, etc. Oui, bien sûr.
Vous les payez mieux, les profs ?
Exactement.
Mais est-ce que
je pense qu'il faudra les former, pas les former en master à l'université, mais dans des instituts supérieurs de professorat.
L'IUFM existait avant ?
Oui, mais certainement pas sur l'IFM.
Oui, mais l'IUFM.
Et on les formera aussi par la voie professionnelle, par l'alternance. Et on les payera mieux. Parce que ça n'est pas normal qu'aujourd'hui, ils ont, par rapport à il y a 30 ans, ils ont perdu énormément
oui,
en termes
d'élèves,
de pouvoir d'achat.
Donc on a besoin de moins de profs.
Exactement. Il y aura 1 700 000 élèves de moins en 2035. Et donc, on va gagner de la ressource. Eh bien, cette ressource, il faudra sans doute moins de profs, mais il faudra que...
On pourra mieux payer les profs.
C'est fondamental. Si, franchement, et on cassera ce que l'éducation nationale fait en termes de ressources humaines, parce que franchement, le bon sens n'est pas français dans ce cas-là. Hein. On marche sur la tête. C'est-à-dire que à l'éducation nationale, on met dans les classes les plus compliquées, les plus difficiles,
les plus jeunes,
les élèves les plus jeunes et les plus inexpérimentés. Et les plus expérimentés, on les met dans des classes les plus faciles.
Il faut donner envie d'aller dans des classes difficiles aussi, parce que...
Alors, pour aller dans les classes les plus difficiles,
tout le monde les paye la même
il faudra
façon.
Des primes. Il faudra des primes. Oui. Exactement. Moi, je veux une école républicaine, méritocratique. Le mérite, que ce soit pour le professeur ou que ce soit pour l'élève.
Je est-ce que vous voulez une école plus exigeante sur le niveau des acquis est-ce que, par exemple, sur l'orthographe, sur les connaissances
90%
scientifiques, demander plus de choses. Par exemple, le bac, aujourd'hui, on a du mal à savoir précisément à quoi ça sert, puisque tout le monde l'a. Et d'ailleurs, les élèves ont bien compris que l'enjeu, c'est Parcoursup et ce n'est plus le bac. Est-ce que tout ça, il faut remettre les choses un peu dans l'ordre?
Exactement. Sur les savoirs fondamentaux, c'est quelque chose qui est essentiel. Il faudra sans doute un examen de passage entre le CM2 et la 6e et parfois faire du redoublement. Quand un élève, quand on traîne, aujourd'hui ce sont les parents grosso modo qui ont la main en disant bah, moi je veux pas de redoublement. Mais quand vous traînez un gamin du CP jusqu'en CM2 et ensuite au collège qui n'arrive pas à maîtriser le français, l'écriture, c'est fichu. Donc on a intérêt à faire en sorte que il faudra sans doute aussi des cours de soutien, ça c'est important, mais l'école c'est vraiment capital pour notre avenir. Il faudra abandonner le collège unique. On traite les enfants comme des produits industriels, comme si c'était les mêmes au même âge. Ben non, il y a des enfants, d'abord ils peuvent avoir eu dans leur propre parcours personnel des pépins. Ça existe ça, des accidents, il faut être capable de les relever. Et donc il peut pas y avoir un collège unique. Moi je pense qu'il peut y avoir notamment des gamins qui puissent choisir l'apprentissage dès 14 ans. Ça sert à quoi de les vouloir les faire durer jusqu'au bac si c'est pas leur vocation?
Donc vous arrêtez, l'intelligence de la main. Vous arrêtez l'école obligatoire jusqu'à 16 ans ou pas?
Non, mais non. Je parle pas d'école obligatoire.
Non, je sais bien.
À 14 ans, on peut avoir une filière.
On sortait complètement de l'école.
À 14 ans, ce que je dis, c'est que c'est le préapprentissage. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est toujours
et
encadré, vous voyez.
Un parcours d'excellence quand même.
Bruno Retailleau, quand il a
regardé les apprentis, franchement.
Non, moi, je suis totalement. Alors, attends.
Les apprentis. Moi, quand j'étais président de région, je m'étais donné cette priorité. J'en avais marre de voir des gamins et j'en avais marre qu'en France, on ait déclassé les métiers manuels.
C'est ça le problème.
C'est énorme. Vous rendez compte, être menuisier, plombier, etc. Et j'ai encouragé une association, je voudrais leur faire de la pub aujourd'hui. L'outil en main, c'est en général des compagnons, des ouvriers, mais souvent des artisans. Ils ont été maçons, plombiers, électriciens. Et le mercredi, ils passent du temps bénévolement pour que dans des ateliers, des jeunes gamins quoi, qui ont 8, 9 ou 10 ans, et ils deviennent pendant une après-midi, ben, on leur apprend à faire un circuit électrique. Ensuite, la plomberie. Ensuite, de la plâtrerie.
C'est de la découverte.
C'est génial. Alors que souvent l'éducation nationale, il n'y avait de salut que en la série S, la série A. Et là encore, je pense que ce qu'il faut faire, tout ce qui est lycée professionnel, il faut le retirer de l'éducation nationale et le confier aux régions, au terrain, où on connaît bien les besoins, notamment économiques, et aussi avec une gouvernance région et entreprise. Voilà.
Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, reste avec nous dans les grandes gueules. Question de Sandrine Pégan, Zora Habitant, Didier Giraud. À la reprise des GG, le temps de passer par la Marne, retrouver Morgane qui est affréteur. Bonjour Morgane.
Bonjour les GG.
Bienvenue, c'est vous qui avez gagné les vacances Bellandra. Oh, yeah. Félicitations.
Super, bravo. Merci beaucoup.
Et je vous en prie Morgane, c'est votre fidélité au GG qui a été récompensée. Vous gagnez séjour Bellambra dans les 45 clubs hôtels. Vous choisirez mer, montagne, campagne, 2000 euros et all inclusive, tout compris premium.
Ah, super, mais ce sera la montagne.
Eh ben vous choisirez, vous regarderez le catalogue, vous ferez comme vous voulez. Passez de bonnes vacances Morgane et merci de la fidélité au GG.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Dans un instant, suite de la discussion avec Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, on va parler carburant, Total, et puis autre sujet de discussion, la sécurité, la justice, bien sûr. J'imagine que Maître Pégan a des questions à poser. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est 11h25, vous êtes sur RMC, RMC Story, les candidats à l'élection présidentielle à la tête des Républicains. C'est Bruno Retailleau qui est avec nous aujourd'hui dans le Face au GG. Les carburants, est-ce que on surtaxe Total? Mais si on surtaxe Total, dis-moi, j'arrête les ristournes. Vous avez choisi votre camp, le camp Total ou le camp Le Cornu?
Je ne vais pas choisir entre Total et Le Cornu. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on a marre des taxes et des surtaxes.
Donc vous avez choisi
Total. On devrait se dire, quand on est français, on a une grande entreprise. Et Total, c'est un bouc émissaire. On a essayé d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on a une mémoire très courte, il y a seulement 3 ans. on avait fait deux types de fiscalité. L'une qu'on avait appelée la CRIM, une contribution, etc. C'était sur les producteurs d'électricité et une autre sur le pétrole. Et ça avait beaucoup déçu. Ça devait rapporter 12 ou 13 milliards et ça avait rapporté quelques centaines de millions et ça n'avait rien arrangé du tout. C'est déjà, moi je trouve positif que Total plafonne. Le problème, mais les Français le savent, c'est que par rapport à ce qu'il fait dans d'autres pays européens où l'État baisse notamment des taxes ou essaie d'encourager justement le portefeuille de ces nationaux, nous on a plus, il y a plus d'argent. Donc aujourd'hui, quand je vois par exemple le Rassemblement National, il voudrait des milliards et des milliards, ça serait entre 15 et 20 milliards. Mais c'est de la dette. Ça voudrait dire que il faudrait que aujourd'hui on fasse payer par nos enfants, nos petits-enfants, un truc pour faire nos pleins d'aujourd'hui. Mais on marche là encore. Où est le bon sens? Et c'est plus possible. Moi, j'ai fait une proposition. Elle est assez simple parce que personne ne le connaît d'ailleurs. La Cour des comptes avait critiqué en 11 ans, elle a critiqué 4 fois le système. Ça s'appelle des certificats d'économie d'énergie. C'est une sorte de surtaxe. C'est une sorte de surtaxe.
Pour financer la transition écologique.
Bah oui, au moins, les augmentations à milliards qui sont prévues cette année, on les arrête. Et en plus, ça va pas dans la poche de l'État. Donc, ça n'est pas de l'argent.
Est-ce que
je retire de l'État.
Oui, mais est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter ce qui nous permettra peut-être demain d'être moins dépendant du pétrole?
Mais c'est terrible. Demain, je vais justement faire mes propositions sur l'électricité. Et je vais mettre sur la table un projet qui va permettre aux Françaises et aux Français, à partir de 2027, quand je serai élu président de la République, d'économiser l'équivalent de 2 mois de facture d'électricité. Je vais vous citer un ou deux exemples. Premier exemple, sur les certificats d'énergie. Je sors l'électricité, puisqu'aujourd'hui, l'État veut qu'on encourage l'électrification des usages et en même temps, on taxe l'électricité. Stupide. Deuxième exemple, on a les fameux DPE, les diagnostics de performance énergétique, vous savez, la problématique des passoires. Et comme par hasard, on se rend compte que, parce qu'il y a des décennies, on a voulu taper l'électricité, avantager le gaz, qu'il y a un taux de conversion où on désavantage les logements qui se chauffent à l'électricité, qui eux sont passoires thermiques, et que des logements qui sont chauffés avec de l'énergie fossile, eux, ils sont vertueux. Mais là encore, c'est complètement dingue. Donc là, par exemple, ça permettrait de restituer sur le marché 1,5 million de logements, alors que les Français sont mal logés. Donc, vous voyez, on a l'électricité depuis 2009, on a doublé le prix de l'électricité. Donc, les carburants, la réponse, c'est pas seulement les carburants, c'est sur l'énergie. Et là, on peut apporter, et demain, d'accord, j'apporterai des réponses concrètes. Je vous en ai donné deux exemples. Pareil, il faut arrêter de subventionner les énergies renouvelables. Parce qu'elles sont matures. C'est des milliards et des milliards. On ne se rend pas compte. On a la chance d'avoir le nucléaire.
Laissons le marché faire, pas besoin de subventionner.
Exactement, exactement. Et si on économise des milliards, croyez-moi, ça se paraîtra sur la facture très concrètement avec 2 mois d'économie par an. La facture d'électricité.
L'un des enjeux, c'est aussi la sécurité des Français. On a appris, grâce à nos confrères d'RTL, qu'il y a un projet au sein du ministère de la Justice de réduction de peine pour essayer de lutter contre la surpopulation en prison. C'est-à-dire, on va essayer de vider les prisons, alors en réduisant des peines, en expulsant peut-être davantage les détenus étrangers. L'idée, c'est qu'il y ait de moins en moins de monde en prison, puisqu'on a ce problème qui est pas nouveau de surpopulation carcérale. Est-ce que ça va dans le bon sens ou au contraire, c'est pas un mauvais signe qu'on va envoyer?
Ça ne va pas dans le bon sens. Un, il faut construire des prisons. Moi, je suis aussi élu local.
Alors, pardon, mais tous les candidats à la présidentielle disent ça, on dit ça. Oui. Et jamais les objectifs.
Jamais il y en a un qui a proposé de la faire chez
ne
lui.
Ne sont atteints.
Eh bien,
notamment ceux des
Vendéens.
Personne n'a
ça fait
recours.
Plus de 10 ans Vendée, que je propose que en Vendée, à La Roche-sur-Yon, je suis concret, hein, ou à Fontenelle-Comte, on construise une prison.
Et les habitants sont d'accord? Les maires sont d'accord?
On s'est accordé. Il n'y a pas eu de souci. Et 10 ans après, on n'a toujours pas la prison. Les deux prisons de Fontenelle-Comte, c'est des petites prisons, et de La Roche-sur-Yon, sont parmi les plus encombrés. Il y a une surpopulation énorme. Les détenus ont fait des conneries, mais c'est quand même des êtres humains. On va pas mettre, voilà, on peut pas les mettre plusieurs par cellule. C'est ce qui se passe en Vendée.
Et surtout, Monsieur Retailleau, dans l'indignité la plus totale.
C'est ce que absolument.
Justement, donc vous avez
la
raison
dignité,
de dire
ça n'est pas.
Et qu'il, voilà.
Pour autant qu'ils soient prisonniers, pourtant, je suis pas connu pour être laxiste, hein, mais la fermeté, c'est aussi de l'humanité.
Voilà.
Bon, quand on
Parce
fait une bêtise, on va en prison. Mais ce que je veux dire, c'est que non, ça va pas dans le bon sens du tout. Je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'il faut faire, nous. L'exemple des Pays-Bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des courtes peines. Moi, j'ai été stupéfait quand j'étais ministre de l'Intérieur de ces gamins de 14, de 15 ans, de 16 ans, des mineurs, qui pouvaient tuer. À chaque fois, je demandais aux gendarmes, aux policiers, de me donner les antécédents judiciaires. Et à chaque fois, c'était pas 10 antécédents judiciaires. C'était souvent plus de 30. Ça veut dire qu'en France, on refuse de les punir. Bien, moi, ce que je propose, c'est une autre politique pénale. Pour les mineurs, mais aussi pour les autres. C'est ce qu'a fait la Hollande, les Pays-Bas. C'est, au premier délit grave, des courtes peines de prison. La Hollande a fait ça. Ce qui fait qu'ils ont découragé, ça a marché. Au départ, ils ont rempli les prisons. Et ensuite, les prisons se sont vidées à tel point que la Belgique a loué des places de prison aux Pays-Bas. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sous Emmanuel Macron, il y avait Madame Belloubet avait fait voter un texte où, grosso modo, pour des peines de moins d'un mois, de moins de 6 mois, même d'ailleurs moins d'un an, quand vous êtes condamné à la prison, vous faites zéro prison. Zéro prison. Donc cette politique de fermeté, ça peut aller justement avec le fait qu'on puisse libérer à terme les prisons parce que on découragera des délinquants quand ils auront fait une courte peine de prison, ils réfléchiront à deux fois.
Okay. Mais monsieur Retailleau, vous savez pertinemment que d'ores et déjà, vous le savez que les mineurs sont incarcérés, sont en détention provisoire à partir du moment où ils commettent des délits ou des crimes. Quand bien même ils sont pas condamnés.
Retailleau,
vous allez pas me dire ça moi, j'y suis tous les jours dans les prétoires.
Mais non, pas très peu, bien sûr que non.
Parce que vous parlez de délits graves. Délits graves pour vous ça veut dire quoi? Moi en tout cas, je vous le dis, de ce que je constate tout le temps en tant qu'avocat pénaliste, c'est que justement les mineurs quand ils commettent des délits comme vous dites graves ou même des crimes, ils sont incarcérés, ils sont en détention provisoire et ils sont dans des quartiers mineurs de prison. Donc ça existe déjà.
Quand je disais tout à l'heure, regardez le cas du jeune Elias, mais je pourrais vous en citer d'autres. Quand je dis 30 antécédents judiciaires, bien sûr, c'est avant de tuer.
Oui, mais 30 antécédents.
Avant qu'il y ait du sang.
Mais attendez,
mais
donc le problème, c'est qu'aujourd'hui. Ça peut être un petit vol à l'étalage,
oui,
vous voyez.
C'est de laisser passer ça, peut-être.
Mais voilà.
C'est le premier acte aujourd'hui.
Donc, à partir du moment où t'as volé un bonbon, parce que ça nous est tous arrivé, hein, d'accord, quand on était jeunes. Bah. Donc, alors, il faudrait être incarcéré pendant un
an.
C'est ça la sanction. Mais parce que quand vous dites, monsieur Retailleau, quand vous dites que le casier judiciaire.
Vous ne l'avez pas écouté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, la politique pénale des mineurs, c'est criminel. Pourquoi? Parce qu'ils volent un œuf. Ils volent un bœuf. On les punit pas. Mais ensuite, ils volent avec violence. Et on attend qu'il y ait du sang pour les punir. Alors, je suis d'accord. Quand il y a du sang, quand il y a un crime, ils vont en prison. Mais heureusement.
Donc,
moi, ce que je veux,
un adolescent qui vole un œuf doit être emprisonné.
Dès le premier délit grave.
Mais vous savez que la prison,
écoutez-moi.
Ça fabrique de la récidive.
Écoutez-moi.
Là, il faut tendre la main à un mineur.
En tout cas,
que monsieur Retailleau fils.
Votre système ne marche pas.
Mais oui.
Votre système ne marche. Vous savez pourquoi, d'ailleurs? Les narcotrafiquants utilisent aujourd'hui des jeunes pour tuer.
Ah oui, ça oui.
De 14, de 15 ans. Ils les utilisent parce qu'ils savent.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que monsieur Darmanin a créé aussi.
Moi, je vous dis pas.
Pardonnez-moi, monsieur Retailleau. Monsieur Darmanin a créé cette nouvelle qualification juridique pour que justement l'instrumentalisation des mineurs par les majeurs pour commettre des faits soit aussi maintenant une circonstance aggravante.
Écoutez-moi bien. Ce que je vous dis, c'est que quand un mineur. Non, c'est pas pour voler un bonbon, mais quand il y a un premier délit grave, alors. C'est une courte peine de prison dans des prisons adaptées. On va pas les mélanger avec des narcotrafiquants, avec les terroristes.
De toute façon, ils ont déjà le quartier.
On enchaîne.
Didier Giraud.
Je vous écoute depuis longtemps. Depuis que vous êtes là, le projet est sympathique. Par contre, il y a un truc qui me gêne. C'est comment on gère l'embouteillage là, à l'arrivée là. Parce que vous dites aujourd'hui, je suis le candidat des LR. Sauf qu'il y a tous ceux qui pourront pas, comme vous l'êtes, être candidat des LR officiels, qui vont monter leur micro-parti et qui font que demain matin, il y aura 25 candidats sur toute la droite. Est-ce que vous pensez pas quand même que vous êtes en train de créer une machine à perdre à vous tous là? Et au fait que la droite, on va dire,
la droite est le centre, on va dire.
Ouais, mais ce que j'appellerais la droite républicaine, elle sera pas au deuxième tour.
Je serai au deuxième tour.
Ah oui, bah, d'accord, mais ça c'est bien.
Je serai au deuxième tour.
Je vais vous expliquer.
Dans notre famille politique, je pense que ça y est, le débat est clos. Je suis le candidat naturel et légitime de LR. Ensuite, il y a le bloc central. il y a Édouard Philippe et il y a Gabriel Attal. Aujourd'hui, les Français se sont pas projetés en 2027. Pas pour l'instant, on est d'accord. Ils sont pas obsédés comme nous par l'élection présidentielle, ils ont raison. Mais ça va venir. Par contre, les Français, ils ont tranché sur le bilan actuel d'Emmanuel Macron. 8 à 9 Français sur 10 disent que c'est un échec. Eh bien, expliquez-moi, je ne vois pas ces 8 ou 9 Français. Attendez, j'explique. Expliquez-moi comment ces Français, à un moment donné, ne vont pas se réveiller pour dire, mais attendez, ils ont été Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et donc, le bilan d'Emmanuel Macron, ils le porteront sur leurs épaules. Moi, non.
Vous avez été ministre d'Emmanuel Macron.
J'ai été un ministre de cohabitation, vous voyez.
Oui.
Écoutez, je me suis opposé sur l'Algérie, je me suis opposé sur la Corse, je me suis opposé sur l'immigration. C'était connu de tout le monde. Si je suis rentré au gouvernement, c'est pas pour les beaux yeux d'Emmanuel Macron. C'est pour la France. Parce que je ne voulais pas donner le gouvernement de la France à Mme Castex et à cette gauche mélenchonisée. Et si j'en suis sorti, c'est quand je me suis aperçu que dans mon dos, le Premier ministre, sur les retraites et plein d'autres choses, était en train de négocier avec le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Donc,
et donc je m'en suis tiré.
Donc la droite LR... Le saucissonnage de la droite, ça ne sera pas un problème. Non,
la droite LR...
C'est pas ce que je vous dis. Mais moi, ce que je suis en train d'essayer de monter, c'est un projet sur la prospérité où le travail enfin va... On est dans une société du travail perdant, pour les travailleurs, pour les employeurs, pour tous les actifs.
Il ne faudra juste pas être le troisième homme. Quoi.
Non, exactement. Sur le régalien, on en parlera. Il faudra changer la Constitution. Et ensuite, sur ce que j'appelle l'immatériel, la fierté française. Vous pensez qu'on peut relever un pays sans lui redonner sa fierté? Or, depuis des décennies, on a cultivé, notamment ici à Paris, la repentance. C'est le cas de l'Algérie. On a dit, les Français, la France, elle est coupable de tous les crimes. Et on n'a pas appris aux jeunes Français d'aimer la France. Au contraire, c'était la repentance. L'histoire, c'était une histoire finalement coupable. Comment voulez-vous agréger à notre destin commun des jeunes qui sont issus de l'immigration, qui demanderaient que cela? Et on leur dit, mais non, la France, elle est coupable, elle est détestable, ne l'aimez pas. Donc ces éléments immatériels, Jaurès avait une très belle phrase. Vous allez comprendre ce que je veux dire sur les éléments immatériels. Jaurès disait, la patrie, c'est le seul bien de ceux qui n'en ont pas. Eh bien, quand on n'a pas de bien matériel, on est attaché à notre culture, à notre mode de vie. Moi, je veux défendre notre mode de vie. Voilà.
Très bien. Juste, c'est fini, mais deux questions très rapides.
Ah, ça s'est passé trop vite.
Oui. Une qualité d'Emmanuel Macron.
Une qualité d'Emmanuel Macron. Intelligent.
Un défaut.
Inconstant.
Merci Bruno Retailleau d'être passé par les GG, par les grandes gueules, candidat à l'élection présidentielle 2027. Mais vous savez quoi, dans un instant, on va faire le débrief.
Ah, oui.
Le débrief de Bruno Retailleau.
Dans
restez avec les grandes gueules. À tout de suite, il est midi moins 20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Chez les grandes gueules avec vous bien évidemment. On a écouté Bruno Retailleau, on en parlait là pendant la pause. Eh bien, on va le prendre le temps d'en discuter encore un peu. C'est le débrief avec Maître Sandrine Pégan, avec Didier Giraud et avec Zora Bitan. Ah, Bruno Retailleau, il est bien décidé. C'est normal, hein, il le dit. Je serai au deuxième tour,
il y aura.
Peut-être embouteillage quand même, un certain nombre de personnalités qui pourront l'empêcher peut-être d'être au deuxième tour, dans son propre camp.
Ce qui est intéressant dans ce qu'il nous dit, c'est que lui, il pense que le bloc central n'a pas sa chance, c'est-à-dire qu'Edouard Philippe ou Gabriel Attal ne passeront pas parce qu'ils seront comme un boulet tiré vers le fond par leur engagement macroniste, même si Edouard Philippe maintenant est très critique. Et donc, il pense en profiter et se qualifier au deuxième tour et peut-être gagner la présidentielle face à Bardella. Après, je rappellerai que les LR, enfin cette droite-là, n'a pas gagné depuis 2012, hein, depuis le départ de Nicolas Sarkozy. Donc ça fait quand même très longtemps. Maintenant, ça, en 2027, ça fera 15 ans que la droite échappe au pouvoir, quoi, en fait. Alors, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce que vous pensez qu'il a le bon positionnement,
Zora?
En fait, moi, je regarde ça du point de vue des Français. Et c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on a Emmanuel Macron au pouvoir, avec un espèce d'attelage hybride où dedans, il y avait des gens de gauche, des gens du PS, des gens du centre, des gens de LR qui sont partis, qui sont devenus macronistes. Et il semblerait que le centre, vu en même temps, n'est pas réussi son pari. Et c'est clair, puisque les Français rejettent massivement ce non-choix, ce recul de la France, son déclassement. quel que soit le bilan d'Emmanuel Macron qu'on peut décortiquer à la loupe et sur des sujets où, qu'on peut trouver pertinents et efficaces, globalement, le ressenti, il est négatif. Mais moi, ce que je redoute de cette droite, c'est qu'elle se renie encore. C'est-à-dire que la droite sociale et la droite républicaine qui, moi, me parle, puisque pour moi, la méritocratie, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de dignité à promouvoir la méritocratie que l'assistanat, et je peux le dire en toute tranquillité. Donc défendre des valeurs aujourd'hui comme l'a toujours défendu la droite, ça m'a toujours parlé. Et d'ailleurs, c'est ce que je n'ai pas trouvé au Parti socialiste où j'étais pendant 20 ans, qui a plutôt privilégié le paternalisme, le misérabilisme, les drogues politiques et surtout le communautarisme et la paix sociale. Donc la droite me va très bien. Maintenant, comment la droite aujourd'hui va s'inscrire dans le paysage politique, sachant qu'il y a un RN en embuscade? Et le problème, c'est pas le RN, c'est le succès du RN chez les Français. Et le succès peut être un peu moindre chez Mélenchon. Donc comment Bruno Retailleau, avec moi des valeurs qui me vont très bien, hein, la France, son autorité, sa splendeur, la réindustrialisation, apprendre à lire et écrire, punir le premier acte de délinquance pour sauver des enfants et non pas pour les stigmatiser et pour pas les retrouver dans des crimes bien plus tard, etc. Tout ça, ce sont des valeurs que je défends, mais je continue, tant pis pour le
tunnel. On est dans le tunnel, là.
Tant pis, j'ai pas eu de questions tout à l'heure, ah bah ça fera la compensation.
Bref,
et ce que je veux dire, c'est que Bruno Retailleau, sa seule condition, c'est comment il va se distinguer d'un RN en embuscade, qui est, lui, en tout cas, aux manettes depuis un moment.
Didier, t'as été convaincu ou pas?
Par son positionnement. Je sais pas, mais dans ce qui nous a décliné, c'est des choses qui parlent à des gens qui vivent la même vie que moi, de mon entourage, tu vois, les artisans, les gens qui vivent en milieu rural. Dire aujourd'hui, il faut qu'on arrive à créer les conditions pour que quelqu'un qui vit des aides sociales, il ait un vrai différentiel avec celui qui se lève tous les matins, qui met de l'essence, qui paie des impôts et qui gagne pas bien plus que le SMIC, il faut qu'il y ait une vraie différence. Et je pense que ça peut avoir un peu de résonance chez les électeurs. Après, sur le discours sécuritaire, je sais pas. Enfin, je pense que tous les politiques ont échoué. Et comment on prendra à bras le corps le phénomène des trafics de drogue aujourd'hui qui sont en train de gangréner, y compris le milieu rural. Je sais pas comment on sortira de ça, quoi. Enfin, le discours sécuritaire, je sais pas s'il peut se mettre en place comme ça, quoi. Ce que je sais, c'est que sur le discours économique, ça va résonner chez les électeurs, on va dire, du milieu rural, des indépendants, ces choses-là. Après, il y a encore plein d'autres sujets qu'il a pas évoqués, mais tu vois, la fracture qu'il peut y avoir entre les gens des villes et les gens des campagnes, elle peut se régler par rapport à la méritocratie du travail. Voilà. Ça règle pas tout, mais il y a quand même cet aspect-là qui, à mon avis, le rend sympathique. Voilà.
Réhabilité, ouais.
Je reste très interrogatif sur le saucissonnement de la droite, là, que tout le monde veut y aller, qu'il y a 25 candidats. S'il y en a un seul qui rentre pas dans le rang, ils sont morts.
Non, mais chez les LR, pour l'instant, voilà, il est le seul candidat. Il y a Xavier Bertrand. Mais on l'entend plus trop. David Lisnard n'est plus LR. Il a quitté les LR, David.
Oui, mais le problème, c'est pas les LR. Hein. Le problème, c'est ce qu'il y a entre Bardella et Faure, quoi. Hein. Voilà, ça va de là jusque-là. Hein.
Sandrine?
Moi, je trouve qu'il est assez décevant, et pardon hein, de le dire, en tout cas, c'est ce que je ressens, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de postulats, mais il va falloir aller au-delà. Il nous parle de l'école, les fonctionnaires, etc. Mais j'ai pas encore eu de vraie vision pour la France.
Bah, le programme, il l'a dit, hein, il est en cours d'élaboration.
Oui, bien sûr, Philippe n'a pas fait plus son programme, tout ça, ok, très bien, mais bon, t'es là sur un plateau et tu dois quand même parler de la vision de la France. Ouais. Oui, c'est mon ressenti. Et je trouve qu'en plus, à chaque fois, il n'aborde, d'ailleurs, comme tous les responsables politiques, hein, je leur fais le reproche, il ne parle que des problèmes franco-français. Voilà. À un moment donné, j'ai l'impression que finalement,
on l'a interrogé là-dessus aussi.
Oui, mais il aurait pu le faire spontanément. Dans le débat politique, je trouve que c'est très pauvre par rapport à la géopolitique. Et on a besoin aussi de savoir quelle est la vision de la France. Donc, à un moment donné, est-ce que la géopolitique, ça fait perdre des voix? Je me pose la question.
Non, mais elle n'a pas tort, Sandrine. Moi, c'est un reproche. Non, mais depuis longtemps.
C'est tout ça.
Non, depuis longtemps, je suis surpris. C'est que la classe politique, elle est très centrée sur elle-même.
C'est ça.
Sur les problèmes franco-français. Déjà, on voit bien que nos problèmes. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux plus parler de la France sans parler de l'Europe, parce qu'on voit bien d'ailleurs nos problèmes sont souvent des problèmes européens. L'immigration, ça se règle au problème à l'échelle européenne, parce qu'à l'échelle française, on voit bien que on n'en réglera pas le truc. Et il y a plein de choses comme ça. Et là, en plus, par rapport à ce qui se passe dans le monde, la guerre en Iran, la suprématie de la Chine, des États-Unis, tous ces blocs qui bougent, c'est vrai que je suis assez d'accord. Quand on entend la classe politique française, on a l'impression qu'on est sur une île. On est une île entre nous et que ça se passe bien.
C'est pour ça que je te dis, est-ce que la géopolitique, finalement, ça leur fait pas perdre des voix? Est-ce qu'ils sont pas peureux par rapport à ça? Oh là là, on va pas en parler.
Mais à un moment donné,
ben oui, c'est le président qui a désarmé.
C'est surtout que dans cette mondialisation, dans cette guerre économique de la mondialisation, tous les discours qui nous plaisent, qu'on veut entendre de réindustrialisation, c'est juste du pipeau, quoi.
Oui.
Parce qu'on va pas y arriver comme ça, quoi. Faisons déjà bien et continuons à être les leaders là où on est identifié, quoi. Mais on va pas demain se remettre à fabriquer des Sophie, quoi.
Où on est leader?
Sur le tourisme.
Le luxe. LVMH.
Ouais. Après,
On est bon sur la chimie, sur les médicaments, la pharmacie, les médicaments.
Mais là, c'est peut-être. Tu vois, Olivier, c'est peut-être une industrialisation qu'on a perdue depuis moins longtemps et qu'on peut peut-être remettre en œuvre, quoi. Parce que les aciéries, c'est mort, on n'y arrivera pas, quoi.
Merci à tous, merci mes chers GG, Bruno Retailleau.
C'était une note d'espoir.
Désolé. Et je vous ai balayé ça.
Je réfléchissais en même temps. Mais pourquoi il parle de la France? Parce que c'est le Rassemblement National qui est devant.
Oui.
Donc
oui.
Si tu veux, le but du jeu, c'est d'essayer de siphonner les voix. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux parler du Détroit d'Ormuz, la France, elle est pas actrice dans le Détroit d'Ormuz.
Ouais.
Tu veux parler du Moyen-Orient?
Non, mais
on a
dans
aucun
la
pouvoir,
guerre. Mais si tu peux pas parler des carburants sans parler de la dépendance au pétrole, de l'énergie, d'où on achète les carburants.
Il a quand même annoncé qu'il fallait arrêter de subventionner les énergies renouvelables.
Allez, merci mes chers GG. Quand on parle de l'Algérie, c'est difficile de ne pas parler du fait qu'on achète du gaz algérien.
Bonjour Estelle Denis, bienvenue.
Salut Alain, salut GG, mais vous avez oublié un domaine dans lequel on est champion du monde. C'est quand même incroyable, c'est vraiment le domaine où on est les meilleurs. Le mytho. Mais les taxes.
Ah oui.
Bah oui, quand même.
On a la coupe du monde, on a gagné la coupe du monde depuis longtemps.
On est quadruple tenant du titre. Bon, dans un instant, nous dans STL Midi, on va parler d'Amazon qui renforce sa présence en France, qui va créer 7000 emplois. Mais est-ce que vous trouvez ça génial ou navrant qu'Amazon prenne autant d'importance en France? On vous attend pour en débattre au 32-16.
Ils investissent 15 milliards, c'est ça?
15 milliards
eux, ils embauchent au moins.
Ouais, enfin, oui, ils embauchent. Mais alors après, tu crois que pour les petits commerçants, c'est une bonne nouvelle? Je suis pas sûre.
Il y a des petits commerçants qui passent par Amazon pour vendre leurs produits.
Oui, enfin, c'est pas non plus la majorité. En tout cas, à midi et demi, écoutez bien, on va parler d'une pétition qui a récolté plus de 10 millions de signatures. C'est une pétition anti-Mbappé. En Espagne, on déteste Mbappé. Les supporters du Real ne le supportent plus. Est-ce que vous avez toujours, vous, une bonne image de la star des Bleus? Ou est-ce que vous aussi, Mbappé vous agace? Vous pouvez nous appeler au 32-16. On parlera de plastique. Il n'y a jamais eu autant de plastique dans nos caddies. On prend des lessives en dosette plastique. On prend des fruits et des légumes emballés sous plastique. Des bouteilles d'eau individuelles. Est-ce que vous seriez prêt à vous passer de plastique dans votre caddie? Vous nous dites tout, ce sera à 13h30 et puis l'arrivée d'un menu McDo à 5€. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Et tu préfères?
Eh bien, je l'ai oublié. Bien sûr. Voilà. En plus, il est vraiment génial. Tu préfères, on parle de ce soir, du match Bayern PSG. Tu préfères voir un match dans un bar ou voir un match dans ton salon à la télé?
Dans ton salon avec des copains.
Voilà, c'est ça.
Ah ouais, on fait un mix des deux.
Ah oui, d'accord. Personne ne va au bar. Alain, les matchs de Nice.
Moi, je vais dormir.
Avec du McDo.
Plus personne ne va les voir dans les bars.
Oui, c'est ça.
Sauf la finale de la Coupe de France le 22 mai
prochain. Dans les bars,
on est plutôt. On pose tout sur la table basse et allons-y gaiement, quoi.
Ah oui, d'accord. À la maison,
À la maison.
Oui, plutôt.
Ah oui, d'accord. Écoutez, en tout cas,
Didier, les matchs.
Ça revient moins cher.
Tu vas dormir.
PSG Bayern. Ce soir, quand même. Didier.
Le ballon est trop rond pour Didier.
Dormir ce soir, alors. Du match.
Et la tribu Zora, là, il y aura du monde autour de la télé ou pas pour le match?
Je pense, oui.
Oh, dis donc, quel entrain, Zora. Incroyable. Ça fait envie, m'invitez pas surtout.
Allez, 32-16 pour réagir avec Estelle. Bonne journée et à demain 9h.